Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1949 comme second volume de Le Deuxième Sexe. L'expérience vécue est un essai philosophique et social dans lequel Simone de Beauvoir examine la condition des femmes à partir des situations concrètes qui structurent leur existence. Après avoir étudié dans le premier tome les explications biologiques, historiques, psychanalytiques et mythiques de la différence des sexes, elle s'intéresse ici à la manière dont une personne est conduite à vivre comme femme. L'ouvrage suit les étapes et les cadres majeurs de cette expérience. De l'enfance à la vieillesse, en passant par la sexualité, le mariage, la maternité, le travail et les formes de dépendance affective ou économique. Sa perspective existentialiste refuse de traiter la féminité comme une essence fixe. Elle analyse plutôt des possibilités humaines limitées ou élargies par éducation, les institutions et les rapports de pouvoir. Ce livre vise donc à rendre visible le processus social par lequel les femmes sont assignées à une position secondaire, tout en réfléchissant aux conditions matérielles et morales de leur autonomie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, devenir femme par l'apprentissage social plutôt que par la nature, le principe directeur du tome est que la féminité ne découle pas mécaniquement du sexe biologique. Beauvoir ne nie pas les réalités corporelles, mais elle conteste qu'elles puissent, à elles seules, justifier une destinée sociale. L'enfant est progressivement orienté vers des conduites, des goûts et des ambitions réputées féminins. Les attentes familiales, les jeux, les modèles culturels et la valorisation de la docilité contribuent à faire de cette orientation un horizon apparemment naturel. Ainsi, la formule célèbre selon laquelle on devient femme désigne un processus de formation, non une simple déclaration sur l'identité individuelle. L'analyse importe parce qu'elle déplace la question, au lieu de demander ce que les femmes sont par essence. Beauvoir demande comment une société produit des rôles sexués et pourquoi ces rôles ont souvent pour effet de restreindre l'initiative des femmes. La socialisation ne crée pas seulement des différences de comportement. Elle organise aussi une répartition inégale de l'accès au monde, à l'indépendance et à la reconnaissance. Cette approche permet de comprendre que les contraintes peuvent être intériorisées sans cesser d'être des contraintes. Elle reste centrale pour penser les stéréotypes de genre, car elle relie les normes les plus ordinaires à des effets durables sur les choix de vie. Deuxièmement, l'enfance. L'adolescence est la fabrication d'une position subordonnée. Dans « Elle, expérience vécue », les premières années de la vie ne sont pas un simple prélude psychologique. Elles constituent le lieu où s'apprend une place sociale différenciée. Beauvoir compare les possibilités initialement ouvertes aux enfants avec les limitations qui se renforcent lorsque la fille est invitée à se penser comme plus fragile. Ses yeux plus réservés et davantage tournés vers autrui. Cette éducation encourage moins l'exploration et l'affirmation de soi que l'attention à l'apparence, à la convenance et au jugement extérieur. L'adolescence rend ces tensions plus visibles, puisque le corps change sous le regard social et que la sexualité féminine est entourée d'interdits, de risques et de prescriptions morales. Beauvoir analyse alors la difficulté de se vivre simultanément comme sujet libre et comme personne fréquemment constituée en objet de regard ou de désir. Son propos ne réduit pas toutes les trajectoires à un schéma uniforme. Il décrit un fond commun de normes et de conditions qui pèsent diversement sur les existences singulières. Cette nuance est essentielle, l'essai ne propose pas une essence de la femme, mais une étude des situations qui rendent certaines options plus probables et d'autres plus coûteuses. La critique de l'éducation sexuée révèle ainsi un mécanisme concret de reproduction des inégalités avant même l'entrée dans la vie conjugale ou professionnelle. Troisièmement, mariage, maternité et travail domestique comme structure de dépendance. Beauvoir examine le mariage et la maternité sans les présenter comme des expériences dépourvues de valeurs humaines. Elle critique plutôt les conditions dans lesquelles elles deviennent, pour beaucoup de femmes, des institutions d'enfermement. Lorsque l'épouse dépend financièrement de son mari et que le travail domestique est tenu pour une obligation invisible, les activités nécessaires à la vie familiale risquent de ne procurer ni autonomie ni reconnaissance équivalente à celles accordées au travail rémunéré. La répétition des tâches, l'isolement et la responsabilité presque exclusive des enfants peuvent alors réduire l'accès à des projets personnels. L'argument de Beauvoir est structurel, ce ne sont pas les liens affectifs ou le soin eux-mêmes qui expliquent la subordination, mais leur inscription dans une organisation où les ressources, l'autorité et le temps sont inégalement distribués. Elle récuse également l'idée qu'un instinct maternel suffirait à définir la vocation de toutes les femmes. La maternité est une expérience corporelle et relationnelle réelle, mais elle ne doit pas être transformée en destin obligatoire. Ce chapitre de son analyse éclaire la continuité entre dépendance économique et dépendance symbolique. Une femme à qui l'on attribue naturellement le foyer peut être privée des moyens concrets de choisir sa vie. L'égalité exige donc une transformation des conditions de l'existence quotidienne et pas seulement une modification des discours. Quatrièmement, sexualité et relations amoureuses sous le regard de la liberté réciproque. L'essai traite la sexualité et l'amour comme des domaines où la promesse d'intimité peut coexister avec des rapports de domination. Beauvoir critique les normes qui font de la sexualité féminine un objet de honte, de contrôle ou de service rendu à l'homme. Dans ce cadre, la femme est souvent encouragée à chercher sa valeur dans le désir qu'elle suscite plutôt que dans ses propres projets. Elle peut aussi être exposée à l'alternative réductrice entre respectabilité imposée et stigmatisation. L'analyse ne condamne pas l'amour en lui-même. Elle montre qu'une relation devient aliénante quand l'un des partenaires renonce à sa transcendance. C'est-à-dire à sa capacité de se projeter librement dans des actions et des fins afin de se fondre dans l'existence de l'autre. Cette question relève directement de l'existentialisme de Beauvoir, une relation juste ne devrait pas convertir une personne en moyen, en possession ou en destin de l'autre. La réciprocité suppose que chacun soit reconnu comme sujet et conserve des possibilités réelles d'action. En abordant ces sujets avec une franchise rare dans la France de 1949, le livre a provoqué un scandale. Sa portée tient notamment à son refus de séparer la liberté sexuelle des conditions sociales, économiques et morales qui permettent ou empêchent son exercice. En dernier lieu, la femme indépendante et les conditions concrètes de l'émancipation, la dernière orientation majeure du tome porte sur la femme indépendante. Beauvoir ne présente pas l'autonomie comme une simple attitude intérieure, ni comme un accomplissement garanti par le fait d'avoir un emploi. Le travail rémunéré constitue une condition décisive parce qu'il donne un accès plus direct aux ressources, au monde commun et à l'action. Toutefois, il ne supprime pas automatiquement les inégalités si les femmes conservent l'essentiel des charges domestiques, subissent des discriminations ou restent définies d'abord par leur rôle familial. L'émancipation exige donc des transformations collectives concernant l'éducation, l'organisation du travail, la sexualité, la maternité et les droits civils. Cette dimension empêche de lire Beauvoir comme une défense abstraite de l'individualisme. Elle associe la liberté à des conditions matérielles effectives et à la possibilité de participer au monde sans être assignée à une fonction de soutien. Son existentialisme insiste aussi sur la responsabilité. Aucune identité prédéterminée ne dispense les individus et les sociétés d'examiner les choix qu'ils rendent possibles. Certaines formulations de 1949 portent la marque de leur époque et ont suscité des débats dans les féminismes ultérieurs. Mais la force du texte demeure dans son articulation entre expérience intime et structure sociale. Il montre que l'indépendance ne se réduit ni à une indépendance financière isolée, ni à une révolte symbolique, mais se construit dans des institutions capables de reconnaître l'égalité réelle des sujets. En conclusion, l'expérience vécue s'adresse aux lecteurs de philosophie, d'histoire des idées, d'études de genre et de sciences sociales, mais aussi à toute personne cherchant à comprendre l'origine sociale de rôles qui paraissent spontanés. Sa lecture est particulièrement utile pour analyser les liens entre éducation, dépendance économique, vie familiale, sexualité et accès à l'autonomie. Elle ne fournit pas un programme immédiat ou une théorie contemporaine achevée de toutes les expériences féminines. Elle offre en revanche une méthode exigeante, partir des situations concrètes. Refuser les justifications naturalisantes et examiner les institutions qui transforment des différences en hiérarchie. Cette démarche permet de discuter avec précision des inégalités persistantes, notamment dans la répartition du soin, du travail domestique et des possibilités professionnelles, par rapport à de nombreux essais féministes plus brefs ou centrés sur une revendication particulière. Ce volume se distingue par son ambition philosophique et par l'ampleur des domaines qu'il relie. Beauvoir associe l'existentialisme à l'observation de la vie quotidienne, sans réduire l'oppression à une seule cause économique, psychologique ou biologique. Le livre conserve aussi une valeur historique, il témoigne de la radicalité avec laquelle furent posées, en 1949, des questions alors largement tues sur le corps, la maternité et le désir. Certaines analyses appellent une mise en contexte critique, mais cette nécessité fait aussi de l'ouvrage un outil intellectuel fécond. Il invite à mesurer ce qui a changé, ce qui persiste et comment la liberté dépend toujours de conditions collectives concrètes. Si vous souhaitez soutenir Simone de Beauvoir, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.